Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Ce mois-ci, je vais vous parler de résistance. Je vais vous parler de la résistance du clergé toulousain au nazisme. Jules Géraud Saliège et ses amis de l'Institut catholique, victimes du nazisme. Jules Saliège est né le 24 février 1870 dans la Haute-Auvergne d'une famille de 5 enfants assez aisés. Après des études au grand séminaire d'Issy, puis Saint-Sulpice à Paris, il est ordonné prêtre et professeur en classe de philosophie. En 1925, Jules Saliège est nommé évêque de Gap, puis, en 1928, archevêque de Toulouse. Après le calme relatif de l'après-guerre, on entrait dans une période difficile sur le plan social, avec la crise économique, et on sentait aussi la montée de l'antisémitisme en Allemagne. Dans les milieux religieux, Mgr Saliège s'opposait à toutes ces idées maurrassiennes. Il condamnera, dans ses prêches, 12 fois l'Action française. Lors d'un voyage à Rome en novembre 1932, Jules Saliège fit une chute. Revenu à Toulouse, son état s'est dégradé et progressivement, il fut paralysé jusqu'au larynx. Malgré son courage, il dut demander un auxiliaire. Et ce fut Louis de Courrèges, un jeune abbé, qui vint le seconder. Grâce à l'aide de son chauffeur Henri, il se remit à sillonner le territoire. Comme il était difficile à comprendre, son auxiliaire lisait ses prêches. Mais Mgr Saliège était très attentif à la moindre erreur d'interprétation. Il la corrigeait énergiquement. Pendant cette décennie, Jules Saliège se consacra beaucoup à l'enseignement catholique de son diocèse, soutenant la diffusion dans les quartiers de la culture, du cinéma, à l'enseignement catholique, s'opposant à certaines congrégations religieuses jugées trop statiques, inaugurant aussi des cycles secondaires comme à Sainte-Barbe, etc. etc. Après 11 ans de patient service, Louis de Courrèges deviendra évêque de Montauban. Nul ne peut contester à Mgr Saliège le titre de grand résistant. Car, déjà, le 12 avril 1933, se tint à Toulouse, au théâtre du Capitole, un meeting de protestation contre le racisme nazi. Mgr Saliège y assista avec le corps enseignant catholique toulousain et M. Bruno de Solages, recteur de l'Institut catholique. Dès 1940, Mgr Saliège était présent lors de la venue de Pétain à Toulouse. Mais, peu à peu, sa décision fut celle d'un opposant. Il reçut une lettre du général de Gaulle et, dès lors, il donna son soutien au gaullisme et à la résistance politique. Mais reste dans le loyalisme sans inféodation, vis-à-vis du clergé de France. Au mois d'août 1942, Vichy consent à livrer à l'Allemagne les Juifs étrangers groupés au camp de Noé et du Ressebedou. Le premier convoi de 330 Juifs part de Portet-Saint-Simon le 8 août 1942, suivi deux jours plus tard de 120 autres personnes. Ces déportés de toute nationalité étaient en majorité des femmes, des mères parfois séparées de leurs enfants, ceci avec violence. Une assistante sociale catholique fut le témoin de ces scènes horribles. Elle s'appelle Thérèse Daudy. Elle était au préalable professeure d'histoire au lycée de Gaillac. Elle fut mise à pied par le pouvoir de Vichy pour des idées antinationales. Et le 20 août 1942, elle rend visite à Mgr Saliège, qui fut bouleversé par son récit. Il écrivit aussitôt de sa main, d'un firme, la fameuse lettre. Vrai sursaut de la conscience humaine qui allait avoir un retentissement mondial. Mes chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme, ils viennent de Dieu. On peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe plus? Pourquoi sommes-nous des vaincus? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, prier pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et du Ressebedou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous la tradition du respect de la personne humaine. France chevaleresque et généreuse, je ne doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes frères, l'assurance de mon affectueux dévouement. Jules Giraud Saliège, archevêque de Toulouse. Ce mois-même, du jeudi 20 août, la lettre était polycopiée et distribuée le lendemain aux prêtres en retraite annuelle au grand séminaire. Des émissaires seront chargés de la distribuer le lendemain dans tout le diocèse, avec ordre de la faire lire dans toutes les églises. Suite à cette lettre, un ingénieur lyonnais, Georges Garel, vont naître des œuvres de secours aux enfants israélites, l'OSE. Puis le pape Pie XII offrira des dons qui permettront à 596 vieillards juifs d'être accueillis dans des établissements hospitaliers. La colonie de vacances de Mademoiselle Thèbes reçut un grand nombre d'enfants. L'abbé Besombe plaça à Saint-Sulpice-sur-Lèze un jeune moniteur du nom de Jean-Marie Lustiger, futur cardinal de Paris. Devant une situation qui ne faisait que s'aggraver, l'attitude du recteur Bruno de Solages de l'Institut catholique ne changea pas. Des personnes de toute origine vinrent chercher refuge à l'Institut catholique. 3 en 1939, 21 en 1941, 28 en 1942. Les professeurs réfugiés pouvaient ainsi poursuivre leurs travaux avec la complicité du corps professoral. Après le débarquement du 6 juin 1944, les Allemands prirent à Toulouse un certain nombre d'otages. Le 9 juin, deux soldats allemands en uniforme se présentent à l'archevêché, sont introduits dans le bureau de Mgr Saliège afin de l'arrêter. L'archevêque n'est pas surpris, mais il ne peut se lever de son siège. La religieuse, son assistante, s'insurge, traite de barbares ces intrus. Surpris, les Allemands se concertent, tournent les talons et se retirent. Le même jour, de nombreuses personnalités toulousaines sont arrêtées. Escudier, président de la chambre à la cour d'appel. Delteil, recteur d'académie. Ahon, maire de Toulouse. Et le colonel Contensou. Au cours de cette journée, l'Institut catholique de Toulouse paya un lourd tribut à cette injustice. La Gestapo s'empara du recteur, Mgr de Solages, considéré par la Gestapo comme le chef des chrétiens rebelles, ainsi que trois professeurs, Mgr Carrière, physicien, le chanoine Salva, fervent occitaniste, l'abbé de Cahors, professeur de littérature française, ils furent enfermés à la prison Saint-Michel. Puis vinrent Mgr Théas, évêque de Montauban, Mgr Rodier, évêque d'Agen, et d'autres otages de Cahors, Foix, Agen et Auch. Ont été en même temps arrêtés Albert Sarraut, ancien ministre, et Jean Baillet, directeur de la Dépêche du Midi. Le 14 juin, on entassa tout ce monde dans des fourgons à bestiaux. Le train se dirigea vers Bordeaux, puis revint vers Toulouse, 7, Compiègne le 19 juin. Les prisonniers vont être ensuite répartis dans des baraquements, isolés les uns des autres par des barbelés et une caserne française, transformée en camp de concentration. Après avoir été dépourvus de leurs papiers d'identité, lettres, ils reçoivent deux couvertures, une gamelle et un quart. Chaque bloc compte une cinquantaine d'individus. Les lits sont superposés et contiennent des paillasses. Le groupe restera à Compiègne jusqu'au 15 juillet. Voici ce que nous dit un membre du groupe de ces enseignants. Malgré les privations, on organise quelques causeries avec l'ancien ministre Albert Sarraut, qui incarnait la France libre. Et le 14 juillet, on fredonnait la Marseillaise au coin des lèvres. Mais le lendemain, tous allaient déchanter. Dans la nervosité, suite au débarquement allié, la Gestapo dirigeait à Compiègne des masses de suspects, engorgeant le camp. Aussi, on expédiait train sur train en Allemagne. Le départ de Compiègne fut horrible. Entassés 50 dans des wagons à bestiaux, sans pouvoir s'allonger. Deux tentatives d'évasion se soldèrent par deux exécutions. Les corps laissés près de nos camarades horrifiés. Nous mettrons 24 heures pour atteindre Thionville, sous le feu des avions alliés. Enfin, nous arriverons à Noengamme, près de Hambourg, le 18 juillet 1944. La vie en captivité fut très rude pour les détenus spéciaux que nous étions, internés civils. Nous étions à 25 km de Hambourg et nous subissions les bombardements. Et on nous envoyait dans la cave. Certains essayaient de fuir. Nous les retrouvions ramenés par des chiens, leurs vêtements en lambeaux. Dans la nuit, le spectacle des rayons verts, des défenses antiaériennes et le bruit des forteresses américaines illuminait et assourdissait le ciel. Nous étions mélangés entre les détenus de droit commun, les condamnés politiques, des opposants au régime hitlérien et les juifs. Pour eux, c'était la chambre à gaz. Les chiffres officiels publiés à la Libération sur un total d'entrées de 81 000 personnes, il y eut 30 000 décès, soit 38%. Pour passer la journée, nous conversions. Les Allemands avaient saisi 2 fois 120 volumes en toute langue dans les valises des nouveaux. Aussi, l'abbé de Cahors, avec 2 collègues, l'un qui était maire d'Agen et l'autre professeur d'université, ont créé une bibliothèque. Chacun y trouvera sa discipline. Nous n'avions pas d'hôtel portatif afin de faire dire une messe. Les nazis avaient tout supprimé. Nous étions dans un athéisme agressif. Le chanoine Salva nous fit chanter, dès le soir de Noël 44, des airs populaires occitans qui remontaient à la mémoire et à nos cœurs. Sur du papier qui avait servi à emballer des briques, il rédigea au crayon un lexique français et occitan, toujours archivé au collège d'Occitanie, dont les feuilles ont jauni et échappé des fouilles nombreuses. Tout cela interpelle. L'hiver 1944 fut très dur, nous nous affaiblissions peu à peu. Il y eut, en décembre, 2000 décès. Nous perdions 19 kilos en moyenne chacun. Et nous ignorions toute situation militaire, car privés de radio et de journaux. Pour Pâques 1945, les autorités allemandes nous autorisèrent enfin une messe. 127 camarades communièrent comme les premiers martyrs de l'Église. Le chanoine Salva réussit à faire rentrer dans le camp du vin et des hosties afin de pouvoir célébrer la messe. Le jeudi 10 mai 1945, surgissent des tanks russes, puis chacun respire cet air de liberté. Nous sommes rassemblés par les Américains et le 18 mai, nous partons dans un bimoteur pour Paris. Après les formalités à l'hôtel Lutetia, le groupe des rapatriés arrivera à Toulouse, acclamé par une foule nombreuse, après 11 mois de captivité. En nous quittant, nous préparions déjà dans nos têtes la rentrée de septembre. Ce lourd tribut payé par les enseignants de l'Institut catholique de Toulouse, dans sa lutte contre le nazisme, les positions courageuses de Mgr Saliège et de nombreuses personnalités font l'honneur de notre ville. Il était de notre devoir de rappeler ces événements. Alors j'ai comme source un livre écrit par Noël Richard et qui a vécu ces événements, ainsi que la mémoire de l'Institut catholique de Toulouse, qui est un livre chez Privat. Je vous remercie et à la prochaine émission.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise.
Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.